20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité, les moments qui ont marqué un tournant. Ce soir, notre jour J est le 17 janvier 2013. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, avoue avoir toujours été dopé.
Yes or no. Oui ou non, avez-vous pris des substances interdites pour améliorer vos performances cyclistes?
Oui.
Avez-vous manipulé votre sang ou fait des transfusions sanguines pour améliorer vos performances cyclistes?
Oui.
Oui ou non, sur l'ensemble de vos 7 victoires au Tour de France, vous avez pris des substances interdites?
Oui.
Nous sommes le 17 janvier 2013. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, enfile le maillot de la honte. Devant la journaliste américaine Oprah Winfrey, il avoue au monde entier s'être dopé et livre en détail ses pratiques frauduleuses. Un ultime coup de pied dans un château de cartes qui était déjà en train de s'écrouler. Un épisode de repentance larmoyant, devenu urgence absolue tant les rumeurs et les accusations circulaient à son endroit depuis quelque temps. La pression était trop forte, le héros pose le genou à terre et s'incline. Mon cocktail, c'était surtout de l'EPO, mais pas trop, de la testostérone et des transfusions, avouera-t-il, avant d'ajouter que tout avait commencé au début des années 90. C'est donc dopé qu'il avait remporté sa première étape du Tour de France en 93. Il avait alors 22 ans et les amateurs de cyclisme français succombaient aux accélérations impressionnantes du jeune athlète texan. Ces mêmes aficionados s'émouvront quand, en 1996, le champion de l'équipe US Postal annoncera être atteint d'un cancer des testicules à seulement 25 ans. Opération, chimiothérapie, le jeune condamné est hissé au rang de héros lorsqu'il vainc la maladie, crée sa fondation Livestrong et revient dans la compétition 2 ans plus tard. En 1999, il file comme une fusée et gagne son premier Tour de France de façon spectaculaire. Un retour gagnant grâce au bien nommé docteur Ferrari, préparateur dont Armstrong avait acheté les services exclusifs. S'en suivront 6 autres victoires qui susciteront autant d'admiration que de soupçons. Car cela fait bien longtemps que le cyclisme est entaché par le fléau du dopage. Difficile en effet de s'afficher propre après l'affaire Festina en 1998, à laquelle Richard Virenque aura été mêlé à l'insu de son plein gré. Et puis, en 2004, un livre signé des journalistes David Walsh et Pierre Ballester affirme, éléments détaillés à l'appui, que Lance Armstrong court chargé, comme l'on dit. Mais il faudra attendre 2010 et les révélations du cycliste américain Floyd Landis pour que la Food and Drug Administration ouvre une enquête. Tyler Hamilton et George Hincapie lui emboîteront le pas l'année suivante. Ce 17 janvier 2013 donc, après des années à se proclamer victime de mensonges et d'opérations de décrédibilisation, Lance Armstrong, qui a tant fait rêver les amateurs de cyclisme, découvre son vrai visage. Celui d'un malhonnête, prêt à tout pour la gagne, qui n'aura pas hésité à insulter publiquement ses accusateurs et à leur intenter des procès. À la question « Aviez-vous l'impression de tricher ?», il répondra « Non ». Retour ce soir sur une petite reine corrompue et immorale, portrait d'un roi déchu, tombé d'un trône qu'il avait volé, banni à vie d'un royaume pour toujours objet de tous les soupçons. Dans un instant, le journaliste Pierre Ballester, qui a enquêté sur Lance Armstrong et a été l'un des premiers à l'accuser de dopage, sera notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui vous plonge ce soir et en direct dans le plus gros mensonge du sport. Lorsque Lance Armstrong passe aux aveux le 17 janvier 2013, la déception évidemment est immense. Comment le septuple vainqueur du Tour de France a-t-il pu ainsi berner son monde, se victimiser et finalement montrer son vrai visage, celui d'un tricheur? 3 mois plus tôt, l'agence américaine antidopage dévoile son rapport de 1000 pages dans lequel elle accuse Armstrong d'avoir monté le programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire du sport, sur la base de 26 témoignages, dont 15 coureurs ayant eu connaissance des activités de dopage au sein de l'US Postal, qui est l'équipe pour laquelle courait Lance Armstrong. La sanction tombe, elle est sans appel. Pat McQuaid, qui est le président de l'Union cycliste internationale, prend la parole.
L'UCI va bannir Lance Armstrong du cyclisme et lui retirer ses 7 Tours de France. Lance Armstrong n'a pas sa place dans le cyclisme.
Pierre Ballester, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et notre invité jusqu'à 21h. Est-ce qu'on parle ce soir du plus gros mensonge du sport ?
Oh, à ma connaissance, oui, même avec le recul, parce que le recul, on est plus miséricordieux, on pardonne, on absout. Mais oui, ça reste quand même un tremblement de terre, ces aveux, même s'il y avait eu quand même, vous l'avez rappelé dans votre préambule, il y avait quand même eu des secousses sismiques avant ces aveux en tant que tels. Oui.
Et vous êtes à l'origine d'une des secousses en 2004 avec la sortie d'un livre où vous dites, alors voilà, attention, il se dope, épreuve à l'appui. Document détaillé,
en tout cas. On est le premier maillon d'une chaîne, quoi, voilà, qui a commencé en 2004 avec ce livre, Les Confidentiels, co-écrit avec David Walsh, jusqu'à 2013. Donc, en fait, ça fait que 9 ans. Hein.
Oui, mais enfin,
il y a des affaires de justice qui durent beaucoup plus longtemps, je crois.
Mais il s'en est passé, en tout cas, beaucoup de choses pendant toutes ces années, et notamment ces 7 Tours de France. Armstrong, il était acculé, il était contraint à l'aveu. Est-ce qu'on peut dire, quelque part, qu'il a changé de braquet un peu trop tard?
Oui, tous les éléments concouraient. Il était dans une impasse. Vous l'avez rappelé, 3 mois plus tôt, il y a ce rapport consistant de l'Agence américaine antidopage. Puis il y avait déjà eu des tractations entre le département de la justice américaine et puis un de ses anciens lieutenants qui voulait porter plainte contre Lance Armstrong. Donc là, il commençait à taper sur une concurrence assez forte. Et donc, oui, il était plus ou moins... dans l'obligation de. Et
il
s'en est sorti à la Armstrong. Hein.
Ouais.
Parce que quand on dit que c'était larmoyant, ses aveux, pas du tout. C'était clinique, vous l'avez entendu. C'est oui, non, non. Enfin, c'est plutôt non, non. Oui.
Oui, voilà. parce que là, il répond effectivement à des questions très précises d'Oprah Winfrey. Mais j'ai regardé ses aveux, pardon, mais moi, il m'a parfois tiré le.
Il joue bien.
Il était dans la repentance, il faisait une tronche un peu de Calimero. Enfin bon.
C'est pas l'approche que j'en ai eue, moi, mais je connais un peu Armstrong.
Oui, ce qui n'est pas mon cas.
Il a une double facette, c'est un Janus. Hein. Et il était très métallique, très en contrôle.
Alors,
il maîtrise tout. Hein,
racontez-nous, c'est qui Armstrong ? Pourquoi justement il a cette personnalité que vous semblez mieux connaître évidemment que nous ? C'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette émission. C'est quoi ? C'est un grand manipulateur ? Parce qu'il a quand même tenu le choc pendant des années.
Il est devenu grand manipulateur par obligation, parce qu'on ne peut pas, c'est l'omerta la plus totale, on ne peut pas revenir en arrière dès l'instant qu'on rentre dans un protocole de dopage. Mais c'est un être brillant, intelligent, qui, j'ai eu beaucoup de conversations avec lui avant, et même un petit peu après les révélations du livre, avec qui j'ai eu beaucoup le privilège et l'avantage de parler avec lui sur plein de choses, et notamment le cancer. Parce qu'il a eu le cancer, il en parle de manière, là pour le coup...
touchante ?
C'est pas touchante, c'est réaliste. Voilà. Ouais. Il coupe les trajectoires. Et alors il a un mental en métal. Je ne vous le cache pas. Il est dur, mais avec les gens qui le regardent dans les yeux, il y a une sorte de respectabilité mutuelle.
D'accord, ok. On sent que vous êtes partagé.
Oui, je suis partagé parce que ce qu'il a fait à l'encontre des gens atteints de cancer, en leur disant grosso modo, vous voyez, moi je vous guéris du cancer, donc vous allez guérir du cancer.
Non, on y reviendra.
Il a bafoué le monde du sport sur l'esprit sportif en tant que tel, s'il en reste. Hein. Il a triché, il a menacé, il a acheté, il a corrompu tout le monde. Quoi,
oui, donc ça c'est très très vilain. Et pourtant,
c'est pas bien. Voilà.
Et pourtant,
oui. Mais bon, je sais pas pour vous, pour d'autres. Il y a des brigands, des marlous, des méchants qui suscitent une forme d'admiration. Mmh. C'est un peu mon cas.
Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il s'est enfermé à ce point dans le mensonge ?
Parce qu'il pouvait pas faire machine arrière.
Ouais.
Quand on rentre dans ce cycle, il y a une omerta qui se crée. Et fatalement, voilà, et on en rajoute, on est dans un rôle de composition. Et c'est terminé. Vous savez, il y en a beaucoup qui se sont dopés, je crois. C'est très difficile de revenir en arrière, vis-à-vis des parents.
Oui, ne serait-ce que la famille, la...
Voilà,
d'accord.
Ça, c'est juste pas possible.
Ouais, je comprends. Donc ça, c'est le petit caractère humain et peut-être touchant chez Lance Armstrong, avec ce champion quelque part métallique tel que vous nous le décrivez. 7 Tours de France lui sont donc retirés car ses victoires ont été volées, on l'a compris, à coups de testostérone, de corticoïdes et d'EPO. Voilà ce dont il finit par convenir, toujours sur le plateau d'Oprah Winfrey.
À votre avis, est-ce que c'est humainement possible de gagner le Tour de France 7 fois de suite sans se doper ?
À mon avis, non.
À mon avis, non. Alors, Pierre Ballester, est-ce à dire que tout le monde est dopé sur le Tour de France ?
Vous savez, on a coutume de dire que tout le personnel politique est pourri, tous les fonctionnaires sont des feignants et les cheminots sont toujours en grève. Alors on pourrait aller dans la commodité de dire que tous les sportifs sont dopés.
Ouais.
Bon, non, je pense pas.
Je vous parle du Tour de France.
Sur le Tour de France.
Oui, mais je ne vous parle pas de tous les sportifs. Non, je vous parle du Tour de France parce qu'on se dit à un moment donné, si certains sont dopés, ils mettent le niveau là. Donc pour pouvoir les battre, eh ben, on est bien obligé de rentrer dans le système du dopage et c'est un cercle vicieux.
Alors, à chaque époque, son dopage.
J'entends, oui.
Déjà, hein, c'est pas le même dopage. Ça, il a évolué, il évolue toujours. Hein. Non, il y a des coureurs qui ne
mais
j'en ai pas, j'en ai pas la certitude.
D'accord.
Voilà. Mais je pense qu'il y en a qui ne se dopent pas ou qui tentent de ne pas se doper ou qui vont à la limite de ce qui est permis.
Alors, il a été découvert en 93 hein, sur le Tour de France. Il avait gagné une première étape. Tout de suite, on l'a repéré, évidemment. Et vous nous le dites d'ailleurs très rapidement, la France succombe à ce Lance Armstrong, ce Texan. Mais très rapidement aussi, en 96, on apprend qu'il a un cancer des testicules. Et c'est là qu'on va aussi peut-être encore plus s'attacher au champion ?
Ah, probablement.
Ouais.
C'est là où l'histoire d'Armstrong naît véritablement.
Ouais.
Ne serait-ce qu'aux yeux des Américains, puisque pour les Américains, il n'est pas le vainqueur du Tour de France.
Il est
le survivant du cancer.
Ouais.
Eh oui. Ouais. Le survivant du cancer. Waouh, c'est Superman, c'est Batman, c'est Spider-Man, qui vous voulez, hein, qui se termine en Anne. Quoi.
Mmh.
Ça a ouvert une autre dimension. Et surtout, il est devenu intouchable. Comment voulez-vous critiquer ou jeter l'opprobre sur quelqu'un qui a eu le cancer ?
On va se retrouver dans un instant parce que justement, cette histoire de cancer va le poursuivre et lui permettre de restaurer toujours son image. Hein, on y reviendra. Il n'a pas hésité en tout cas à faire appel à cet épisode de sa vie. On va revenir dans un instant sur 1999 et les premiers soupçons. A tout de suite dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
C'est Soirée Sport sur RTL, nous sommes en direct à Soirée Sport et avant le foot, Jean-J vous propose de revenir sur ce 2013, quand le cycliste Lance Armstrong avoue enfin avoir toujours couru dopé. Il a donc volé ses 7 victoires du Tour de France. On ne peut pas évoquer la carrière du tricheur d'Armstrong en passant son cancer des testicules sous silence, qui aura un très gros poids, hein, vous le disiez, sur son image. Pierre Ballester, vous êtes notre invité. Il vint donc la maladie, ce qui en fait un héros, notamment aux États-Unis. Et il revient dans la compétition retour ultra gagnant, puisqu'il va remporter le Tour de France en 1999. Mais les premiers soupçons surviennent.
D'après le journal Le Monde, des traces de corticoïdes, un corticoïde de synthèse, ont été décelées dans les urines de Lance Armstrong le 4 juillet dernier, juste après la première étape. Il s'agit d'une quantité infime, ce qui exclut toute sanction à l'encontre du coureur.
Pierre Ballester, donc vous êtes notre invité jusqu'à 21h. On est un an après l'affaire Festina.
Oui, on est sur les ruines fumantes de Festina en 98.
Donc on fait tout pour qu'à un moment donné, tout se passe bien. Quoi. Et là, là, j'imagine que c'est la douche froide quand même pour les organisateurs du Tour.
Bah, qui tempèrent. Ils sont embêtés. On peut dire emmerdés. Hein,
on peut le dire comme ça.
Bah, ouais, ils sont gravement
c'est quand
emmerdés.
Même une énorme tuile, quoi.
Bah oui, parce que dès le premier jour, hein, ils remportent le prologue. On appelle ça un prologue, la première étape, pour faire court. C'est une surprise générale.
Ouais.
On ne l'attendait vraiment pas là. Et puis quelques jours survient dans une révélation dans le journal Le Monde, effectivement, qu'il avait fait usage de corticoïdes et qu'il avait fait aussi usage d'un certificat médical antidaté. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille, quoi.
Voici la réponse, justement, de Lance Armstrong.
Je pense que le journal Le Monde est ici pour écrire une histoire sur le dopage et non sur le Tour de France. J'ai peut-être fait une erreur, j'ai utilisé une crème pour une irritation à la selle. Il y avait de la cortisone dans cette pommade. Et après mon contrôle antidopage, en effet, on a retrouvé des traces de corticoïdes. Je dois vous dire qu'il n'y a pas d'histoire de dopage, c'est un simple problème dermatologique.
Il ne perd pas la face, Pierre Balestère.
Il a réponse à tout, Lance Armstrong. Il a toujours eu réponse à tout. Il a un sens de la répartie, il a un sens de la situation. Il sait quoi répondre au moment voulu. Et on assène des vérités. Bon, c'est un peu connu un peu partout. Hein. On assène des vérités. Et donc les journalistes qui sont... Vous inquiétez pas, les journalistes de sport, c'est quand même pas non plus des bêtes de scène. Hein, donc ils sont plutôt dans la soumission, la docilité, notamment avec Lance Armstrong. On ne va pas aller trop loin. Donc c'était très facile pour lui de retomber sur ses pattes puisqu'il avait été aidé pour le coup par l'Union Cycliste Internationale et son président d'alors qui s'appelait Hein Verbruggen.
C'est-à-dire ?
Qu'il avait facilité effectivement le fait de, on va trouver quelque chose. Eh ben, ce certificat médical antidaté signé par son médecin espagnol pour le coup et l'UCI. Vous savez, l'UCI c'est l'Union Cycliste Internationale, pas la Fédération Internationale. Pour elle aussi c'était une aubaine d'avoir Lance Armstrong. Pour l'internationaliser le sport à travers un type pareil aux États-Unis où le cyclisme est méconnu, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est unique, c'est l'aubaine. Donc, il a été aidé de partout, hein, pas seulement par la Fédération internationale de l'époque, hein, je précise bien de l'époque, même si le passé n'est pas toujours révolu, mais aussi par tout le monde. Tout le monde a été complice, jusqu'aux spectateurs. Les organisateurs, les médias, les sponsors, donc tout le monde y passe.
Donc ça veut dire aussi que j'imagine que les quantités n'étaient pas aussi infimes que ça.
C'est pas une question de quantité.
Un test antidopage, moi je crois.
Il y a trace ou il n'y a pas trace.
D'accord.
Après,
okay,
il y a des taux, des seuils, des choses comme ça. Quoi.
Voilà. Ok. Cette même année en 99, donc Lance Armstrong, je l'ai dit, remporte le Tour de France et là, il décide de dédier sa victoire.
C'est du 50-25-25. À 50%, cette victoire est pour la communauté du cancer, tous ceux qui sont impliqués, les médecins, les infirmières, les survivants. À 25%, c'est pour ma famille, mes amis et moi. Et puis à 25%, pour ceux qui n'ont jamais cru en moi.
C'est pas joli, joli, ça ?
C'est magnifique, moi, je trouve, comme phrase.
À
50% pour les cancéreux. Il leur a dit, il dira une autre phrase, du moins il l'écrira ou la fera écrire par quelqu'un, un journaliste, que s'il avait à choisir à l'époque hein, entre gagner le Tour de France et avoir à nouveau le cancer, il choisit le cancer. Et voilà, tout est dit dans l'opération marketing. Ni plus ni moins, hein, voilà. Parce que son cancer, il a eu un cancer, je peux malheureusement en témoigner, puisque j'étais, je peux dire à son chevet, mais j'étais le visiter quand il était à l'hôpital, pour le coup, lorsqu'il a eu ses séances de chimiothérapie et ses ablations de métastases, de tumeurs cancéreuses. Il a bel et bien eu ça. Il était vraiment alité, et vraiment très sec, très sec, mais... trois semaines plus tard, après la quatrième et dernière séance de chimiothérapie, trois semaines plus tard, les dernières métastases du cerveau, parce qu'il en est au cerveau, c'est pas qu'un cancer testiculaire, c'était un peu généralisé, elles étaient nécrosées. Et qu'est-ce que ça veut dire que les métastases sont nécrosées? Ça veut dire que le cancer répond au traitement chimiothérapie. Il était guéri du cancer trois semaines plus tard. Son cancer a duré trois semaines.
Et il a vécu médiatiquement longtemps sur ce cancer. 15 ans sur ce cancer. Et effectivement, ce jour-là, quand il gagne dopé en 99, donc il décide de dédier, en tout cas en partie, sa victoire aux malades du cancer. On va se retrouver dans un instant. On va écouter justement une réaction à l'époque de Jean-Marie Leblanc, qui est le patron du Tour et qui jubilait. Mais c'était sans compter sur la suite. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Le cycliste Lance Armstrong est à la une de ce jour J ce soir et jusqu'au foot. Et la rencontre, que dis-je, le choc PSG-Manchester City en direct sur RTL. On l'a quitté Lance Armstrong il y a un instant, alors que les premiers soupçons de dopage pesaient sur sa victoire en 1999. On a compris grâce à notre invité Pierre Balestère que ça arrangeait tout le monde un petit peu, que l'affaire soit étouffée, en tout cas minimisée. Et cette année-là, Jean-Marie Leblanc, le patron du Tour, est satisfait.
C'était l'essentiel cette année, que le Tour de France se déroule bien, sereinement, sans affaires, sans descente de police, sans fouilles intempestives dans les bagages des coureurs pendant la course. Je crois que nous allons maintenant aborder l'année prochaine, les tours prochains, avec un climat complètement restauré.
Raté ! Pierre Ballester.
C'est ça quand on revient rétrospectivement sur les événements. Quoi.
C'est... Bah c'est ça, c'est-à-dire que c'est terrible. J'imagine que cet homme est particulièrement sincère à ce moment-là. En
ah, il l'est, Jean-Marie Leblanc.
Un an après l'affaire Festina, on peut repartir sur un tour propre. Et non, en fait, en réalité, on est déjà dans un tour quoi, pire.
Il est dans la suspicion. La suspicion, le doute, parce qu'il n'y a pas encore de preuves avérées. Et c'est vrai que c'est un poison, en fait, le doute.
Mais bien sûr.
Et qui s'insinue sur tous les lacets du Tour de France.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer à un moment donné que Lance Armstrong ait pu continuer comme ça aussi longtemps?
Mais qui aurait pu l'interdire? Personne. Il avait dans sa poche, je vous dis, tous les acteurs, tous les dirigeants principaux du monde du cyclisme.
Donc tout le monde savait, quoi?
Bah, non seulement tout le monde se doutait. Et notamment les connaisseurs du cyclisme. Et puis de toute façon, même s'ils avaient su, ou s'ils savaient, ils se tiraient une balle dans le pied, parce que c'était quand même, ça générait quand même de
Bien
la
sûr.
Notoriété, de la crédibilité, de la respectabilité et de l'argent. Donc du business, hein, pour faire court. Donc qui avait intérêt à stopper Armstrong en disant « Oh là là, t'es un méchant, tu te dopes ». On ne peut pas dire ça, il n'était pas le seul à se doper de toute façon.
Mmh.
Il
y a eu,
je vous rappelle très rapidement, j'ai fait une étude en 2007 avec Stéphane Hubi. On a refait sur les 45 premières années du Tour de France. On a relevé tous les coureurs qui faisaient le Tour de France. Et ils ont contrevenu au règlement antidopage. Pour le peloton, c'était à 35%. Pour les 10 premiers, c'était à 55%. Pour le podium, c'était à 70%. Et pour le vainqueur, c'était à 85% qui avait contrevenu à la réglementation antidopage. Comment peut-on imaginer que le dopage s'est arrêté avec le départ de Lance Armstrong? Non, c'est non. Là, je suis certain de cette incertitude.
En 2004, vous sortez un livre où vous l'accusez publiquement.
Oui.
Avec David Walsh.
Avec David Walsh, oui.
Ouais. Preuve à l'appui, enfin en tout cas, document détaillé à l'appui. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas entendu à ce moment-là?
En 2004?
Ouais.
Ah si, un petit peu quand même.
Oui, d'accord. Non mais j'entends, je ne minimise pas l'impact de votre livre. Mais pourquoi? Non mais ça a fait partie des tremblements de terre.
Être entendu par qui? Les instances dirigeantes du sport?
Ouais.
Non, surtout pas, faut surtout pas. Non, va mourir. Tais-toi.
Qu'est-ce qui l'a fait chuter, alors?
Ce qui l'a fait chuter, c'est bien après. Il y a des concours de circonstances, c'est un peu complexe comme opération, mais en deux points, il y a deux points. Un, sa négligence à lui, Lance Armstrong, parce qu'il a vu un ex-lieutenant, un coéquipier, qui avait gagné le Tour de France en 2006, qui s'appelle toujours Floyd Landis, et puis qui a été dans la mouise parce qu'il a été disqualifié pour dopage en 2006. Et il a du mal à trouver une équipe, et il appelle Lance Armstrong, et qui lui dit... Fuck you, hein, peu de choses près. Tais-toi, ta gueule.
Il ne faut jamais faire ça quand on est tenu par un secret.
Non.
On ne laisse pas sur le bord de la route.
Il a une amertume, une frustration, une rancœur. Et il va tout déballer à l'agence américaine antidopage. Ça, c'est le premier. Ça a été vraiment le point important et déclencheur. Mm-hmm. Il y en a eu d'autres. Sheryl Crow.
Sheryl Crow, il faut le préciser, c'était donc une chanteuse qui a été la compagne de Lance Armstrong. Bah oui, mais attendez, moi je connais plus les chanteuses que les cyclistes.
Chanteuse de country.
Absolument. Voilà. Et qui a fini effectivement par dénoncer.
Elle l'a évoqué, elle aussi, transfusion dans l'avion qui l'a amenée en Europe.
En 2011.
Voilà, exactement. Et puis cette enquête qui a été menée donc par FDA, la Food and Drug Administration, comme il a été dit. Puis ensuite par l'agence américaine antidopage, qui a conduit l'US Postal. Il était le coureur et le leader de l'US Postal. L'US Postal, c'est la poste de chez nous. Mmh. Donc c'est un établissement public, pour le coup semi-public, mais qui engage de l'argent public, donc celui des contribuables. Et là, c'est pour ça que le gouvernement fédéral a intenté une affaire contre lui, en justice contre lui. Je vous dis tout de suite la fin, elle est bien heureuse pour Lance Armstrong, puisque à l'américaine, la justice américaine n'est pas la même que la nôtre. On peut payer, on peut régler à l'amiable un arrangement. Voilà. Donc, au lieu de perdre à peu près 80 à 90 millions de dollars, ce qui était estimé à l'époque, sur ces dépôts de plainte successifs, l'arrangement, paraît-il, selon la presse américaine de l'époque, c'était à peu près 5 millions de dollars. Donc, rassurez-vous, il est encore sain d'esprit, il est riche, il a fait des investissements dans beaucoup de sociétés, notamment à Uber. Donc, vous inquiétez pas, il va bien.
D'accord, donc je n'avais pas véritablement d'inquiétude, mais enfin je me dis quand même, pour un grand champion comme ça qui a fait rêver, puis déçu tous les aficionados du Tour de France, hein, je parle chez nous, ce grand champion, il a perdu ses titres, il a perdu ses sponsors, il a dû couper les ponts avec sa fondation contre le cancer, donc j'ai quand même le sentiment qu'il a beaucoup perdu. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que là, bon, il ne doit pas écouter jour J, mais enfin bon, il est en train de couler des jours heureux. Aux États-Unis, vous avez eu des nouvelles ou pas?
Oui, un petit peu. Depuis que Bastien m'a appelé, désolé Bastien.
Bastien qui est un de mes collaborateurs.
Voilà. Ouais. Oui, il vient de fêter ses 50 ans dernièrement. D'ailleurs, avec Jan Ullrich, un de ses adversaires malheureux, ils ont renoué, ils sont certainement imbibés de Mojito, je ne sais quoi. et donc, c'est là où il a fait part aussi de. Voilà, qu'il avait fait des investissements. Pas malheureux, notamment.
D'accord.
Je vais parler d'une grande société qui a donné le terme de ubérisation, où il a mis à peu près 100 000 dollars il y a une dizaine d'années, et ces 100 000 dollars deviennent 35 millions de dollars aujourd'hui. Donc ça va, il est bien retombé.
Mais le bonheur ne tient pas non plus qu'aux millions de dollars.
Non, qu'à l'argent, mais l'argent c'est surtout le bonheur.
C'est quelqu'un qui a obtenu la reconnaissance à une époque, quelqu'un qui a fait rêver.
Mais l'argent est une compensation pour beaucoup, et il fait le bonheur des Texans, hein, vous savez, l'argent, me semble-t-il. Hein.
Oui, parce qu'effectivement, il est Texan. Est-ce qu'on peut dire qu'Armstrong, il a quand même payé pour les autres? Parce que finalement, tout le monde l'a fait.
Oui.
Il nous reste 40 secondes.
Oui.
Selon vous.
C'est compliqué, je ne sais pas s'il a, il a... Oui, parce que c'est la tête d'affiche, c'est la tête de gondole pendant une dizaine d'années. C'est vrai. Donc il a payé pour les autres.
Mais pas que.
Mais il n'a pas eu, encore une fois, pas de protocole antidopage dopant plus extraordinaire qu'un autre qui a gagné le Tour de France. Enfin, c'est vrai.
Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation, Pierre Balester.
Merci Flavie.
Je conseille...
Une année yo-yo, je suis là à 21h30.
Très bien, voilà. Je conseille votre ouvrage LA Confidential, c'est Les secrets de Lance Armstrong aux éditions Point. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL. Nous parlerons du 3 juin 2012. La reine Elisabeth II célèbre son jubilé de diamant avec son peuple tout entier. 60 ans de règne, c'est dire si elle a tout vu. On en parlera demain. Bonne soirée à vous et à demain sur cette antenne.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand.